le samedi, nous voulons essayer cette année de comprendre comment c'est possible pour nous de découvrir les portes d'entrée, les portes qui nous permettent de rentrer dans l'amour. Parce que, évidemment, qui ont une soif d'amour, qu'il y ait une soif d'affectivité en nous, tout le monde le sait, je veux dire, c'est pas la peine de faire un dessin, je veux dire. Alors, on est tous fabriqués avec l'amour, et tout notre problème cette année, ce sera ça. Bon, on a décidé, c'est vous qui m'avez demandé qu'on traite ce sujet, notamment les apôtres Saint Jacques et Saint Jean, ils se sont dit que ce serait très très bien de prendre ce thème-là. Bon. Alors, on va prendre ce thème pour l'année. Ce n'est pas un thème qui est si facile que ça, parce que vous sentez bien que l'amour, il n'y a pas de méthode. Dès que vous mettez une méthode pour la question de l'affectivité, vous êtes sûr que ce n'est pas de l'amour. Absolument sûr. Alors, c'est-à-dire comment trouver donc des portes d'entrée pour rentrer dans un amour qui soit véritable, qui soit un amour humain. La découverte de l'amour. D'abord, pour découvrir l'amour, il est bien évident qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Bien évident qu'un certain nombre d'étapes avant que l'amour puisse apparaître doivent se mettre en place. Et il y a ce qu'on appelle les épreuves. Les grandes épreuves. Et nous passons tous par un certain nombre d'épreuves depuis la conception jusqu'à l'âge adulte. Et un jour, peut-être à travers ces épreuves, on découvre, l'appel à l'amour, il est permanent, si vous voulez, mais on découvre, on touche un jour ce que c'est que l'amour. À travers les différentes épreuves. Mais s'il faut attendre 60 ans, s'il faut avoir 60 ans d'épreuves, 60 ans où on a passé, disons, glorieusement, victorieusement, les fameuses étapes universelles, n'est-ce pas ? L'épreuve, donc, de la gestation, l'épreuve de l'enfance, l'épreuve de l'adolescence, l'épreuve de la maturité. C'est, voilà, quatre épreuves qu'il faut arriver à vaincre. Et c'est bien évident que attendre ces 60 ans pour découvrir l'amour, c'est dommage, parce qu'on est plutôt vers la fin. Alors, donc, ce serait peut-être un petit peu plus intéressant de découvrir avant. Remarquez, heureusement, qu'il y a la réincarnation, parce que comme ça, on peut faire. Bon. Comprenez pourquoi il y a des gens qui... Ça arrange la réincarnation. Non, l'amour, ça... Ça se fait qu'en une seule fois. Il n'y a pas de méthode. C'est ça qui est très important. Dès que quelqu'un vous dira, voilà, j'ai une méthode pour vous, extraordinaire, pour que vous puissiez découvrir dans le corps spirituel, dans votre corps humain, la porte où vous expérimentez l'amour humain. C'est extraordinaire qu'on puisse trouver des méthodes comme ça. Eh bien, il n'y en a pas. Et dès qu'on vous donnera des méthodes, c'est ça la grande mystique du XXe siècle. La mystique du XXe siècle, c'est de trouver des méthodes. New Age, c'est ça. Ce qu'on appelle le Nouvel Âge, si vous voulez, mais plus globalement, la grande tendance de l'ésotérisme, par exemple. C'est ça. C'est donner une voie initiatique, si vous voulez, pour ouvrir des portes, qui soient vraiment des portes physiques, des portes réelles incarnées. Bon, les uns vont appeler ça des chakras, les autres vont appeler ça, je ne sais pas quoi, les énergies, les autres vont appeler ça tout ce que vous voulez. Mais ces portes-là sont des portes de destruction de l'amour. Pourquoi ? Parce que ouvrir un chakra, par exemple, ouvrir cette porte où mon corps recèle un certain nombre d'énergies qui semblent inépuisables, parce qu'elles sont reliées à l'énergie qui actue la vitalité du monde cosmique. Les portes donc qui sont découvertes et qu'on ouvre pour libérer ces énergies et ces forces ne peuvent s'ouvrir qu'à partir du moment où je déboutonne quelque part, c'est pour ça que j'aime bien cette expression, déboutonner les chakras, je déboutonne quelque chose de ma personne. C'est de mon unité personnelle qu'il y a quelque chose du lien qu'il y a entre les puissances de l'amour qui sont en moi, le corps physique, l'âme qui est la lumière vivante, qui a la même forme que le corps physique, qui est en lien d'ailleurs avec toutes les lumières de ce monde, et l'esprit qui est en moi et qui fait que je suis capable de toucher ma finalité et mon bien. Ces quatre choses s'unifient en moi au moment de l'acte créateur de Dieu. Mais bon, laissons tomber Dieu, puisque l'après-midi du samedi, nous sommes la philosophie, d'une manière substantielle. Et lorsque je déchire l'unité entre le corps et puis physique, et puis la puissance de l'amour qui est en moi, l'esprit et l'âme, et je fais une espèce de séparation entre les deux, vous voyez, c'est ça les méthodes, je fais une séparation, du coup il y a une tension qui se fait, et c'est de cette tension que se libèrent les énergies, c'est pas de l'amour, c'est une dislocation, une division de l'unité substantielle de la personne. L'amour, c'est le don de la personne qui se livre pour être brûlée dans l'amour. Et c'est le don de la personne. Donc si la personne elle-même est divisée, elle ne peut plus jamais expérimenter l'amour. C'est pour ça que c'est si grave, la voie initiatique. Et que, vous voyez, par exemple, une institution humaine si perspicace, bon, par un effet de la providence, certainement, que l'Église, bah, elle dit, quiconque rentre dans une voie initiatique est sorti du corps mystique de l'Église. C'est l'excommunication. Tu ne peux pas rentrer dans une voie comme ça sans être détruit du point de vue de l'amour. Ah, il y a une réparation, ça c'est un autre problème. Vous voyez, cette division extraordinaire que le non-amour, qu'on appelle dans la tradition chrétienne le péché originel, bon, mais dans le manichéisme on appelle ça autrement, comme dans le bouddhisme on appelle ça la souffrance. Bon, et bien, vous voyez, cette division qui est introduite par le non-amour. Alors, il y a une division en nous. Et c'est pour ça qu'il y a ces épreuves de la vie. Ces épreuves de la vie ont pour but de faire que ce qui est divisé en nous reprenne quelque part une unité. Vous voyez bien ? Donc il s'agit de mettre notre corps physique dans notre esprit dans notre corps physique, de mettre notre amour dans notre corps dans, dans celui... vous voyez, c'est toute la personne, et notre être entièrement, lui, doit souffrir. C'est la personne qui doit souffrir. Ce qu'on dit dans l'Écriture, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, il faut que nous nous dépouillions de l'homme ancien qui est en nous, pour revêtir l'homme nouveau. Épître de Saint Paul, Corinthiens. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'homme ancien ? On a une manière de vivre à partir de la division qui est en nous, entre le corps, l'âme, l'esprit, et puis toutes les puissances d'amour, vous voyez ? Ça, c'est l'homme ancien. Et on expérimente tout le temps, ça, pour le coup. Vous voyez ? Très embêtant. Puis en même temps, à l'intérieur de cette espèce d'homme ancien, qu'est-ce que je découvre ? Qu'est-ce que je vois ? Au bout d'un certain temps, je vois une espèce de gémissement de la personne, qu'on appelle les nostalgies. On a des nostalgies profondes. Et dès qu'on commence à voir mais d'où je viens, qu'est-ce que je suis, mon je suis, etc., que je m'interroge, etc., que j'essaie d'interroger les plus grandes profondeurs de mon être dans les moments où je suis le plus unifié et en paix, même dans les moments où je suis le plus unifié et en paix, là où je suis le plus fort spirituellement, je découvre cette espèce de débordement de nostalgie. La nostalgie de l'amour. C'est curieux cette nostalgie d'ailleurs. On ne peut avoir nostalgie que de ce qu'on a connu. On a des nostalgies, on a une espèce de grandes nostalgies. Et ces nostalgies, bon, vous les connaissez, mais pour certains d'entre vous, mais enfin, c'est pour ça qu'il faudrait que je les reprenne avec vous aujourd'hui. Ces nostalgies nous font découvrir que justement l'amour, nous n'arrivons pas encore à l'expérimenter. Et c'est ça toute la philosophie, la sagesse. C'est de réapprendre et de permettre que ces nostalgies ne soient plus des nostalgies. Ces nostalgies qui sont un appel, nous oblige quelque part à dire il faut retrouver la liberté dans l'ordre de l'amour. Et donc à faire des actes d'amour. Les nostalgies, c'est un appel. À un moment, quelquefois, c'est tardif. Hein, et ordinairement, c'est après 18 ans. Hein. Ordinairement. C'est pour ça que... C'est marrant comme tout d'ailleurs. Moi j'ai envie de regarder les nostalgies avec vous, mais ça c'est pour voir cette vocation à l'amour. Après avoir regardé ces vocations à l'amour, il faut comprendre ce que c'est que cet amour. Bon. Comment, j'allais dire, quand on expérimente quelque chose, est-ce que tu es sûr que c'est de l'amour ou pas? Bref, il nous faut un discernement. Il y a des choses qu'on croit, dont on croit que c'est de l'amour, et ce n'est pas de l'amour, vous voyez bien. Ça, il faut absolument avoir un discernement pour savoir si vous donnez une méthode pour un non. Mais au moins déjà dire, ah oui, ça c'était de l'amour. Ah, quand même, c'est déjà une indication. L'amour est toujours libre. Alors, comme l'amour est toujours libre, si je constate en effet à un moment donné, ça c'était de l'amour, au sens très profond, très intime, très incarné, alors à ce moment-là, je peux commencer à rentrer dans la philosophie de l'amour. Je ne peux pas faire la philosophie d'une théorie. Je peux faire la philosophie que de l'expérience. Uniquement. Sinon, ça devient une idéologie. Idéologie chrétienne. Or, on ne veut pas des idéologies. On n'en veut pas. Même si elle est baptisée chrétienne. Je ne veux pas d'une idéologie. L'amour n'a pas d'idée. Et il n'y a pas d'idée dans l'ordre de l'amour. Alors que Dieu, c'est pareil. Dieu n'est pas une idée. Ah oui, 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 les croyants, c'est ses idées. Non, c'est pas ses idées. Dieu n'est pas une idée. Et en plus, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ce serait à la rigueur une idée. Même pas une idée. Même pas une idée. Même pas une. C'est vos idées. Non, c'est pas mon idée. C'est tout. Mais il ne peut pas comprendre, le pauvre garçon. Alors, du coup, tu le plains. C'est bon. L'amour n'est pas une idée non plus. Alors, c'est à partir de l'expérience. Déjà, prendre cette expérience. Oui, mais on avait déjà travaillé ça. Mais on va essayer de le reprendre. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, oui, on travaille ensemble. Donc, si vous m'arrêtez, quoi. Si vous avez une idée géniale, non, si vous avez eu une expérience géniale, c'est ça ? Si vous avez une expérience géniale, une idée, je m'en fous, mais une expérience géniale, à ce moment-là, vous m'interrompez, vous dites, non, ça ne me paraît pas vrai, ça. Oui ? Bon, avant de regarder les nostalgies, je voudrais quand même faire un petit schéma parce que je crois qu'il y a de nouveaux visages à rassembler, je voudrais quand même rappeler des choses un peu élémentaires, mais qui sont quand même très importantes pour notre sujet. Vous voyez, je voudrais quand même qu'on voit une chose, c'est que l'amour Il me semble que l'amour, moi je crois que, enfin, quand je dis, je me pose la question, attention, pas quand je suis perturbé, quand je suis en paix, quand je ne suis pas soumis à une influence quelconque d'une nostalgie ou de quelque chose d'autre, et que je suis quand même dans un état d'illumination. Je suis dans un état de limpidité ou de lucidité. D'autres disent de paix. Et puis je me dis, voyons, qui est-ce que j'aime? J'aime quelqu'un. Ou j'ai aimé quelqu'un. Remarquez bien ceci, c'est que l'amour, d'après ce que disent ceux qui l'ont expérimenté, ne diminue jamais. Donc, si vous dites « j'ai aimé quelqu'un vraiment, mais aujourd'hui je ne l'aime plus », c'est donc que ce n'était pas de l'amour. Ça, ça doit être clair. Mais en tout cas, j'essaie de voir qui est-ce que j'aime énormément, réellement, profondément, intimement, de manière vraiment incarnée, réelle, indéniablement. Et puis, je m'aperçois que tout le monde ne peut pas répondre à, ben, moi, je dis, moi, avec certitude. Mais il y en a qui peuvent répondre avec certitude, oui, je sais, ça, j'ai aimé. Et j'ai aimé telle personne. Telle personne. Il y a une autre personne que moi. C'est, l'amour naît à l'extérieur de moi. C'est curieux cette histoire-là. L'amour, son centre de gravité est à l'extérieur de moi. Je suis attiré par un autre. Et cette attraction est substantielle parce que c'est une personne. Et c'est ma personne tout entière qui est attirée. C'est pas uniquement mon corps physique, ou mon corps éthérique, ou mon... ou simplement mes puissances affectives qui sont... Non, c'est la personne laquelle, j'allais dire, est emportée dans un être, une autre personne, qui lui est inconnue. Parce que toute personne qui est face à moi, est inconnu. C'est une autre. C'est un autre. L'autre est inconnu. Parce que l'amour est toujours très obscur. Toujours la nuit, l'amour. Toujours. En tout cas, ce qui est très très curieux dans l'amour, c'est que c'est l'autre qui va... Quelque part, le centre de gravité est en autre. Quand je dis, mais à quel moment j'ai expérimenté l'amour, vous comprenez que vous faites référence à une expérience personnelle. Et très curieusement, cette expérience personnelle, si vraiment c'est une expérience d'amour, vous allez vous rendre compte que cette expérience personnelle, en réalité, elle n'est pas l'expérience de votre personne. Elle est l'expérience que vous êtes sorti de vous-même et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre que vous. Vous avez vécu à l'intérieur de quelqu'un d'autre que vous. Vous avez été attiré par un autre. Ouais. En fait, c'est pas une expérience tout à fait personnelle, quelque part. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient pas au patrimoine, si vous voulez, de votre mémoire spirituelle. De votre mémoire personnelle. Ouais, c'est vrai. Alors, vous comprenez comme c'est délicat, cette histoire. Je voyais, par exemple, on dirait... Il faut que l'amour prenne tout en moi. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on voudrait. Que l'amour prenne tout en moi, c'est qu'au fond, que je devienne... qu'il y ait un amour très très fort en moi. On appelle ça la piété, n'est-ce pas? Que je ressente très fort l'amour, vous voyez? La piété. Que je ressente très fort la piété. Que je sois vraiment ouvert aux autres. À mon père, à mon enfant... à mon conjoint, à mon ami. Ça, c'est la piété, ça. qu'il y ait toujours cette relation qui soit toujours vivante. Ça, c'est la piété. Il faut que cette relation soit brûlante. C'est la ferveur. Alors là, c'est déjà un petit peu mieux, tu vois. Ça brûle. Ça bouillonne. Vous savez, tu mets sur la casserole où tu mets de l'eau, dans la cocotte minute, tu fermes, tu vis un coup de vis, et puis ça boue. À un certain moment, ça boue tellement que... Puis il y a même le truc du dessus. Ça, c'est la ferveur. La ferveur, c'est que tu dégages de ta personne. Tu dégages. Tu es tout en toi, fout le camp dehors. Tu es attiré par un autre. C'est la ferveur. Et bon, la sainteté, être un saint. La sainteté, ça, c'est une expérience d'amour. La ferveur n'est pas une expérience d'amour. La piété n'est pas une expérience d'amour. La sainteté est une expérience d'amour. Je prends le mot sainteté au sens philosophique. Oh, au sens religieux, c'est encore pire, évidemment. Parce que l'amour est terrible. La sainteté, au sens philosophique, il y a des saints. Il y a des saints. C'est un saint homme, celui-là. Regardez. Oh. C'est sûr. Alors, la sainteté, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Il faut que l'amour nous sanctifie, sanctifier. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Il faut regarder ces mots-là. Sanctifier. Ça vient du latin sanctum facere. Le facere, le fieri, c'est le facere. Faire que je sois un saint. C'est curieux. Il faut me sanctifier. Il faut que je me sanctifie. L'amour, ça c'est sûr. Le facere. Facere est un terme qui s'oppose à agere en latin. En grec, dans le Nouveau Testament, ça va faire agios. Agios, agios. En hébreu, kadosh, kadosh. Kadosh Adonai, saint, 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 le Seigneur. Agios, 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 t'es où? En grec, c'est pas? Vous voyez, vous avez la racine, hein? Agere, agios. Ça, c'est du latin, agere, ça, c'est du grec. C'est pas rien, c'est les mêmes racines, c'est la même culture. Faire que tu deviennes un saint. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence entre facere et agere? Ça, je vous ai tellement souvent le dit que je le répète, et ça, ça me paraît très important de le faire. C'est qu'au fond, au niveau de ce qui est très puissant et qui peut me brûler complètement dans ma vie, ça, c'est la très très grande, ça fait 3000 ans de sagesse qu'on essaie de le répéter. On commence sa philosophie au niveau éthique et au niveau du discernement de notre vie pratique, pardon. Attends, excusez-moi, toc. Par ce grand discernement de savoir que c'est deux choses qui peuvent me brûler, qui sont totalement différentes, l'expérience du facere et l'expérience de l'agere. Ça, c'est très important parce que il faut quand même qu'on y arrive à discerner. Ça, tu dis ça en ce moment sûrement. Alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a un lien entre agere et agios, et puis facere et sanctifier. Et comment? Dans la sanctification, le facere et l'agere sont un. Vous voyez bien? Il y a une unification qui se fait. L'unité dans la simplicité, tout est brûlé. Alors voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire de facere et d'agere? Vous voyez, facere, c'est quoi? C'est le fait que vous faites quelque chose. Alors c'est pour ça que c'est il y a quelque chose de très très curieux. Alors on dit faire l'amour, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Comprenez bien. D'ailleurs, oui, le facere, ça n'est pas de l'agere. Le facere, au fond, c'est quoi? Le facere, c'est quand vous, en vous-même, il y a quelque chose de très très fort et que vous voulez que cette chose qui est très très forte en vous, mais qui vous a complètement rassemblé quelque part. On appelle ça par exemple une inspiration. C'est l'aspect génial qui est en vous, le facere. L'aspect génial. On est tous, à un moment, il n'y a plus que toi, quoi. C'est génial ce que je porte. Puis tu veux traduire ça à l'extérieur. C'est l'artiste. Le travail. Ce par quoi, au fond, l'homme Et c'est un génie, nous sommes tous un génie, nous sommes, et nous pouvons apporter à ce qui est extérieur à nous une perfection qu'il n'a pas. Que je découvre en moi une perfection qui n'est nulle part ailleurs, que je découvre par une illumination intérieure qu'on appelle l'inspiration. Vous voyez, tu as une expérience très très forte. Tu n'as jamais vu d'artiste, mais les artistes, c'est balèze. On est tous des artistes. Oh, c'est fort ça, une découverte folle. Et tu veux traduire ça. Bah, je sais pas. Allez, tu vas faire un film. Tiens, alors il y en a un qui va faire un film. L'autre, il va faire une peinture, il va faire un tableau, un pastel extraordinaire. 10 mètres sur 2,50 mètres. Extraordinaire, pastel. Et l'autre, bah, il va prendre son djembé, et puis il va essayer de traduire ça, quoi, par la musique, par quelque chose. Bon, l'autre, il va prendre... Bon, l'autre, il va essayer de faire passer ça, de faire comprendre. Il faut que les gens, ils comprennent ça, quoi. Alors, tu le fais passer. Ah, il faut traduire ça. Ou alors, vous connaissez l'histoire que je raconte toujours de Mémanas, qui est le nez de Rocha, n'est-ce pas? Bon, ça, je raconte toujours cette histoire, parce que je la trouve très amusante. Espèce de Sicilien extraordinaire, c'est un Sicilien grec, chypriote, un peu un mélange par les deux. Et c'est le nez de Rocha, vous savez ce que c'est que Rocha. Bon. Alors donc un jour il va, donc vous connaissez l'histoire par cœur à force, mais comme vous la entendez plusieurs fois, comme ça vous pourrez la raconter après. Alors il se présente devant les mosaïques de Ravenne, hein, vous savez. Les mosaïques de Ravenne, très belles mosaïques. Style byzantin, etc. Et comme c'est dans une ambiance d'une architecture italienne là, qui est sur les bords de côté Yougoslavie, d'abord il a fait le voyage, donc les parfums il n'avait pas senti alors que c'est son métier pendant 8 jours. Donc il y a eu une espèce de pénitence, de jeûne, enfin, où il n'y avait pas eu histoire de parfum, il n'avait pas créé de parfum pendant 8 jours. Donc il faut une abstinence, c'est vrai que l'artiste réapparaît dans son inspiration dans le désert. Il faut une certaine pénitence pour qu'il fasse gérer. Quelqu'un qui n'est pas ascétique, son génie, il n'y aura rien du tout. Pour ça je suis pas artiste. Mais voyez bien, et là, devant les mosaïques de Ravenne, je ne sais pas ce qu'il a ressenti, j'en sais rien. Mais il voulait que je sache ce qu'il a ressenti. Alors il dit, je vais créer un parfum pour traduire ce que je ressens. Et il crée Byzance, mesdames. Et il crée Byzance. Alors si vous mettez Byzance et que vous venez m'embrasser, je comprendrai. Je comprendrai ce que Mémanas, a éprouvé et qu'il a voulu transmettre au monde. C'est extraordinaire, cette histoire de Byzance. Pas neutre du tout, vous savez, le parfum. Il ne faut pas prendre n'importe quel parfum. Alors, vous voyez bien, le fat chéré, vous comprenez bien le processus du fat chéré. Bon, moi, quand je ressens quelque chose, si je vis quelque chose, si tu veux, je ne peux pas me mettre sur le pupitre, et puis recto tono, dire, je vais vous lire mon expérience. Non, c'est... Bon, parce que moi, quand j'étais gosse, je faisais beaucoup de théâtre. Alors, c'est pour ça. Donc, vous voyez bien. Donc, chacun a son pli dans le point de vue de l'art, vous voyez. C'est un côté génial. Il a sa manière de transcrire, de transporter ce qu'il porte de fort à l'extérieur. Ça, c'est le génie artistique. Et il faut former son enfant à cette vocation artistique de travail. On est responsable de tout le monde extérieur et notre travail personnel. Il faut que ce soit le travail de la personne, il ne faut pas que ce soit un travail de robot. Notre travail génial, ce que nous avons de génial à apporter, est indispensable. travail humain, s'il est un travail humain, et qu'il fait partie du fachéré, eh bien il est indispensable à notre monde. Parce que ce que j'apporte, personne ne l'apportera. Heureusement qu'il y a le phénomène du centuple, mais enfin, ça c'est un autre problème. Alors, donc, voyez bien comment procède le fachéré. Le fachéré, c'est moi qui suis source de cette sortie de moi-même. C'est ce que je porte en moi qui va se traduire dans la matière. Tandis que dans l'amour, l'adjéré, c'est moi qui agis. L'adjéré, vous voyez bien, c'est l'amour. C'est l'amour, je suis porté par l'amour et du coup, je suis agi. Je suis mu. L'adjéré, c'est un mouvement qui me vient d'un autre, voyez. La source de l'amour, c'est l'autre. La source de l'adjéré, vous voyez, je l'aime et du coup, ben, je l'aime tellement, je suis attiré par lui et du coup, l'acte, c'est que j'avance vers lui et je souris. C'est des actes, vous me comprenez bien, ces actes sont provoqués par l'autre. C'est l'autre qui m'attire. C'est ça l'amour, l'adjéré. Et du coup, il y a des actes. Dans le fait d'adjéré, il n'y a pas d'acte. Il y a tout un travail. C'est pas pareil. La différence entre le travail et puis l'acte humain. Et vous voyez bien que, du coup, comme je l'aime, il y a des actes. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'amour. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui est très très important, c'est que là, le moteur, le principe, ça c'est facile à reconnaître. Alors, on dit, voilà, je veux me marier, bon, ben, parce que je l'aime, ben, tout. C'est bon, très intéressant, tu. Bon, ah bon, ah oui, oui. Ah, parce que vraiment, je l'aime. Oh, un amour, vraiment, parce que il faut vraiment, tu vois, que. Alors, tu demandes de décrire ce que tu. Ah, tu fais ça comme ça, c'est vrai, oui, c'est vraiment fort et tout. Ah, je l'aime, je. Ah oui, je l'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, enfin, je l'aime trop, quoi, et je porte tellement ça en moi que c'est pas possible, donc on va se marier. Bon. Bon, ben, dis donc, vous ne vous mariez pas. Eh oui, parce que ça, c'est du fachéré, ça. C'est l'artiste. Il aime son inspiration. Il est inspiré. Moi, ce mec-là, ça m'inspire. Ce mec-là m'inspire. C'est pas pareil. Grâce à cette personne-là, je deviens génial. Mon génie se réveille. C'est l'artiste, c'est pas du tout l'amoureux, vous comprenez? Ah oui, avec ce personnage, je suis bien. Ah oui, alors donc je l'aime. Mais non. C'est pas de l'amour, là. Vous voyez, j'espère que vous voyez la différence. C'est inouï la différence. Vous ne pouvez pas faire deux choses sur le plan pratique aussi différentes que ça. Donc c'est facile à discerner, hein. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Parce que il faut que j'enfonce le clou. Moi, je veux bien enfoncer le clou si vous voulez. Bon, non, mais vous avez le droit de causer. On cherche ensemble. Moi, vous pouvez me dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein? Ok. Vous avez le droit, même le devoir de le dire si vous n'êtes pas d'accord.
L'amour
humain.
Non, l'amour artistique.
Ouais, c'est pas de l'amour alors. C'est l'expérience artistique alors.
Au lieu d'aimer l'autre pour lui-même, donc une relation qui nous échappe,
ouais.
Un bien qui nous attire, là on a une inspiration et on essaie de traduire, de concrétiser avec l'autre quelque chose qu'on ressent.
Oui, c'est ça.
Donc c'est l'inverse en fait.
C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ce que tu portes en toi que tu veux donner. Ça, c'est de l'art. Tu portes en toi et tu veux le transcrire dans l'autre. Donc l'autre, c'est une toile. C'est de la pâte à modeler et tu veux le sculpter. C'est tout. C'est une matière transformable. Ah ! Il comprend pas ce que je vis, l'amour que je vis pour lui. Il se laisse pas transformer par mon burin.
effrayant. Donc je divorce. Bon, eh ben, il vaut mieux que tu te maries pas alors. Divorce avant. Et découvre quand même qu'en dehors de ton face serré, en dehors du fait que tu es un génie, l'autre existe. Numéro 1, apprendre que l'autre existe. Si tu n'es pas capable de voir que l'autre existe, ça me paraît impossible que tu aies une expérience d'amour. Tu découvres qu'il y a un autre. Et que le bien n'est pas en toi. En toi, tu peux découvrir de fort et de beau, mais pas de bien. Parce que ton bien ne peut se découvrir que par l'amour. Et l'amour ne se découvre que dans l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien. Puisque tu peux être pour l'autre un bien. Alors le bien attire. C'est ça qui est extraordinaire. J'espère que vous voyez la différence. Parce qu'il faut quand même qu'on voit en nous la différence entre une activité pratique, donc un agir qui à partir de nous relève de l'artiste, et puis celui qui relève donc de celui qui aime avec son cœur, avec sa volonté, donc avec sa personne. Vous voyez bien, alors je crois que c'est facile. Bon, alors une fois que le principe est expliqué, bah, dans le langage courant, on dira quoi? Bah, on dira, ah oui, mais non, mais... Je l'aime, quoi. Vraiment, je suis... Parce que je lui ai tellement fort que je ne peux pas résister à cet amour, quoi. C'est ce que je vis qui est tellement fort. Et puis, il va parler, cette personne-là va vous parler de son amour, disons, pendant 5 minutes. Hein. Pendant 5 minutes, il ne sera jamais question de l'autre. Hein. C'est l'occasion, l'autre. C'est juste le petit stimuli. C'est les mosaïques de Ravenne, ça, que vous me menace. C'est tout. Mais l'autre m'en fout complètement, mais c'est ce que je vis qui compte. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui me prend. Voyez, cet autre fait naître en moi une force intérieure, une inspiration. Je me sens magnifié quelque part. Alors, à ce moment-là, c'est de l'art. C'est la grenouille qui devient aussi grosse que le mec. Elle devient aussi grosse que le gueule, pas du tout parce que le fat serré est mauvais, mais parce que je confonds le fat serré avec l'adjéré. Parce que si j'étais lucide sur ce fait que ce que je ressens, c'est mon côté artistique qui apparaît, eh bien je ne gonflerais pas aussi gros que le bœuf, ça resterait à sa place. Et c'est en tant que tel que je commence à regarder encore plus l'autre. Et que je découvre que l'autre, c'est lui qui a finalement suscité ça en moi, parce qu'il est plus grand que moi. Il m'a fait naître à moi-même. Et donc, je découvre qu'il y a en lui un mystère plus grand que moi. Il est mon bien. Et donc, il m'attire. Et donc, je suis capable de lui donner, au fond, de renoncer à mon vécu, pour rentrer dans son mystère. Vous voyez, très important, la différence des mots. Je suis capable du coup de renoncer à mon vécu pour rentrer dans son mystère. Je ne rentre pas dans son vécu. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans son dimension artistique. C'est pour ça qu'on partage ensemble le vécu, c'est des artistes qui partagent ensemble. Ceux qui ont fait avec moi Route Terre-Joie savent que je suis bagarré avec cette histoire de partager le vécu. Voilà. Oui.
Est-ce que, d'une manière simple, par exemple, éviter de projeter, par exemple, en termes d'imagination, c'est-à-dire que bon, on voit une créature, par exemple, et bon, donc, c'est-à-dire que ce qu'on reflète sur la créature, c'est l'image qu'on s'est faite de cette créature, ou alors telle qu'elle voudrait qu'elle soit, en rapport avec notre imagination.
Oui.
Et donc, est-ce que bon, le fait, par exemple, on va dire de bon, d'où le temps de l'amitié ou par exemple des fiançailles pour quelqu'un qui était fiancé, d'échanger bon, quels sont ses projets de vie, comment il conçoit les choses pour éviter des écueils comme ça. C'est-à-dire que là, bon, tout simplement en faisant le tour de la façon de concevoir la vie, de l'un et de l'autre, est-ce qu'on peut éviter, de manière simple, en grande partie, les écueils? Parce que des fois, par exemple, les fiancés, il y a des problèmes, parce que finalement, ils n'ont pas discuté de la façon dont ils...
Oui, parce qu'il faut causer, puisque à force de causer, tu te rends compte que finalement, tu t'enfermes dans ton truc à toi. Que l'autre, tu ne l'as pas, tu ne sais même pas, tu ne le connais pas finalement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut cette espèce de dialogue dans ce qu'on appelle la déclaration d'intention d'ailleurs. Dans la déclaration d'intention, tu scrutes dans en gros quatre grandes directions pour vérifier que tu t'es pas enfermé dans un truc pas possible à cause de l'imaginaire et que tu n'as pas transposé sur l'autre une idée que tu te fais de lui. Et de sorte que, découvrant 5 ans plus tard que finalement il ne correspond pas à l'idée que tu t'en faisais, n'est-ce pas, tu dis, ben voilà, il ne correspond pas, il m'a déçu parce que ce n'est plus lui que j'ai connu. Mais tu l'as connu quoi? Tu l'as connu, c'est ton vécu qu'il connaissait. Lui, il n'a pas changé. Tous les gens qui disent 5 ans après, il a changé. C'est plus celui que j'avais connu. Si, c'est celui que tu as connu. Il n'a pas changé. Personne ne change. Du point de vue de la personne, personne ne change. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut effectivement ce dialogue pour que tu puisses, purifier tes idées et que tu n'aies plus d'idées sur l'autre. Et que vous ayez ensemble un projet de vie, une intention de vie, d'accord? Pour incarner l'unité des deux. Et c'est pour ça. Mais tu vois, le dialogue, c'est pas par rapport à l'amour, le dialogue, c'est par rapport à l'unité des deux. Donc on va faire un projet de vie, on va fonder une famille, par exemple, je sais pas quoi. Hein. Donc il va falloir qu'on discute, ça c'est sûr. Mais bon, pour la question de l'amour, tu remarqueras bien une chose, c'est que l'amour, tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas le fabriquer, tu ne peux pas mal l'améliorer par des méthodes. La seule chose que tu constates, c'est que l'amour, tu l'expérimentes ou tu ne l'expérimentes pas. Et si tu ne l'as jamais expérimenté, il vaut mieux que tu te poses... Alors là, pour le coup, tu commences à te poser un certain nombre de questions.
Par exemple, on se trouve avec une créature. Par exemple, vous avez des créatures. Par exemple, l'échange naturel spontané. Par exemple, vous dites une phrase. Lui, il va vous répondre.
Ouais.
Et il y a naturellement, si vous voulez,
une harmonie.
Une harmonie qui est absolument vidée, ouais. Qui fait qu'il y a toujours quelque chose à se dire, à se communiquer, et où on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a beaucoup de points communs. Et par exemple, vous pouvez vous trouver avec des créatures où finalement vous êtes sec. C'est-à-dire que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez bien pouvoir arriver à lui dire pour engendrer un sujet ou engendrer une conversation. Alors que vous avez par exemple des êtres avec qui ça se fait tout seul.
Oui.
Bon, là je parle de.
Eh bien là, ce que tu dis, tu vois, tu es en train de décrire exactement ce que je disais tout à l'heure. Avec lequel mon vécu et son vécu s'harmonisent.
Oui.
Ça, c'est une espèce de coopération qui est possible. La coopération, c'est dans le domaine du facere. Donc, il y a des gens avec qui je vais coopérer, ça marche. C'est rien à leur dire. Parce que si c'est au niveau du « je livre une idée dans l'échange », son idée se rejoint la mienne, s'approfondit, ça. L'approfondissement des idées, c'est une coopération, c'est un travail. C'est un travail d'intelligence ou de la pensée, si tu veux, mais c'est un travail. C'est pas de l'amour. On est dans le facere, on est dans l'art à ce moment-là. On n'est pas dans l'expérience d'amour.
Parce que dans l'amour, il y a des personnes, vous allez sentir une attirance. Au départ,
oui.
Bon, cette attirance, elle va se concrétiser ou parce que vous allez vous apercevoir que l'attirance est fondée.
Oui.
Parce qu'on arrive justement dans un moment où alors, effectivement, vous êtes attiré par quelqu'un et vous allez vous apercevoir, on va s'apercevoir, je dis on.
Oui, non, mais moi, je fais partie du troupeau, oui, oui. Voilà, alors la projection, justement, c'est ce que j'allais te dire, mais enfin, je voulais pas mettre une troisième bulle, mais il y a aussi le problème de la projection psychologique, hein. Donc tout à l'heure, ce que tu me disais, oui, il ressemblait un petit peu à la projection psychologique. Je me projette sur l'autre et l'autre se projette sur moi. Et ces doubles projections ne sont ni facturées ni adhérées. C'est une espèce de un phénomène de projection. Donc moi, je laisse tomber ça, si tu veux. C'est pas ça, on regarde pas ça. On veut regarder des expériences typiquement humaines. Parce que ces phénomènes d'interprojection, c'est des phénomènes aussi qu'il y en a dans la vie animale. Donc moi, ce que je fais, la philosophie de l'homme, je ne m'intéresse pas à la vie de l'animal.
Est-ce que c'est toujours réciproque quand c'est vraiment ça, quand c'est vraiment un monstre, ou est-ce qu'il peut y avoir des...
Ben écoute, c'est toi-même qui peux le dire par ton expérience. Lorsque tu aimes quelqu'un, c'est lui que tu aimes.
Mais je ne sens pas dans mon expérience à moi.
Ben justement, c'est donc...
Moi, j'en suis convaincue.
Donc c'est lui que tu aimes. Donc il arrive quelquefois que l'amour s'impose à toi. C'est ça qui est assez extraordinaire.
Non, je parle par exemple d'une personne qui a finalement développé quelqu'un qui est attiré complètement par le mystère de l'autre. Et l'autre, justement, peut-être en regardé dans les tas de choses, il ne se voit plus lui-même, il ne sait plus ce qu'il est.
Mm-hmm.
Et donc, il passe à côté de lui-même, alors que la personne qui est en face d'elle voit vraiment ce qu'il
est. Oui, absolument. L'amour te fait connaître l'autre, peut-être quelquefois plus que l'autre ne se connaît lui-même. Ça, c'est évident. Mais tu vois, c'est à cause de ça que la réciprocité dans l'ordre d'amour n'est pas toujours du fait de l'expérience. Même si ton amour est un véritable amour, il s'impose, toi, l'autre ne peut très bien ne pas avoir cette réponse ou ce don aussi de l'attraction de ce qui en toi pourrait lui faire rentrer dans l'extase de l'amour.
Alors, comment vous expliquez ça à une personne qui vit cette expérience?
Ça s'explique pas. Tu vis de l'amour et puis l'amour se communique, mais c'est tout. C'est ça, la sainteté, justement, c'est pour ça que j'avais mis le mot sainteté. Parce que qu'est-ce que c'est que le saint? La sainteté, il y a plusieurs choses. La sainteté te met à part, c'est quelque chose de sacré, la sainteté, n'est-ce pas? Le sacré, c'est quelque chose où tu es mis à part de tous les autres. La sainteté fait que tu es dans une très grande pureté, l'amour est dans une très grande pureté, une immense pureté, tu es entièrement pur, et cette pureté est si substantielle, troisième caractéristique, qu'elle déborde. Que tu aies un amour pur, quelquefois tu dis, en fouillant un peu dans la terre, tu dis, ah, il y a de l'amour pur, tu vois? Dans l'extérieur de l'amour, si c'est un amour qui n'est plus ni la piété ni la ferveur, mais un véritable amour, alors à ce moment-là, tu aperçois que cette pureté, tu n'as pas besoin de creuser dans ta terre. Tu es entièrement lavé, pur. L'amour est pur. Et c'est tellement pur qu'il déborde. Ça va? C'est vraiment l'autre qui t'attire. C'est l'autre, c'est lui qui fait ce travail, quelque part, sans le savoir. L'amour, si tu veux, s'impose à toi. Hein? Tu n'en peux rien, je veux dire. Alors, ce que tu peux faire, par contre, c'est prendre conscience que tu l'aimes. Ça, tu peux le faire. Mais c'est justement tout le problème de notre responsabilité dans l'ordre de l'amour, c'est la prise de conscience de l'amour, et puis comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça? Comment est-ce que tu vas faire? Il faut que tu commences à devenir contemplatif pour que ton amour devienne saint, spirituel, et en même temps physique, personnel. Il faut donc que tu deviennes contemplatif, et puis le contemplant, tu comprends que tu l'aimes, et qu'il est ton bien, et que du coup, il est aussi ta fin. Il est la finalité de ta vie. La finalité de ta vie n'est pas en toi-même. La finalité de ta vie est dans l'autre. Parce que l'autre est source d'amour. Donc quelque part, c'est la source d'amour en l'autre qui est ta finalité, bien sûr, hein, derrière. Ça, les gens ne peuvent pas toujours l'expérimenter. Et la source de l'amour, dans toute sa pureté substantielle, dans son débordement substantiel et universel, c'est ce qu'on appelle Dieu.
Donc, une personne qui va dire, je sais qu'au fond de lui, je sais qu'il est bien, qu'il est bon, il est pour moi et tout, mais il ne s'en aperçoit pas, il ne sait pas se permettre, il n'y a pas d'amour.
Attends, répète ça. Donc, tu aimes quelqu'un. Tu es attiré par Patrick. Voilà. Patrick t'attire.
Oh, bon, ben, il peut s'appeler Patrick.
Oui,
bon, alors. Non, je n'admets pas. J'expérimente qu'il m'attire.
Oui.
Il m'attire vraiment.
Il m'attire bon, vraiment. Oui. C'est quelque chose en lui qui est vraiment très très fort. C'est quelque chose de pur.
Oui.
Que je sens en lui.
Oui.
Lui n'en a pas conscience.
Oh, ben, peut-être qu'il en a conscience, mais tu sais pas. T'en sais rien, pas tout. Oui, alors bon.
Oui, on parle d'un cas où il en a pas conscience.
Ah bon, très bien.
Oui, c'est important, ce que je veux dire après.
Oui, mais quand qu'il en est conscient ou pas conscient, tu t'en fous puisque tu l'aimes.
Oui, c'est évident. Mais.
Tu l'aimes.
Il se rebiffe justement contre.
Mais il se rebiffe pas, tu l'aimes.
Il peut se
rebiffer. Ben, il n'est pas censé savoir que tu l'aimes. Tu l'aimes.
Voilà, s'il ne veut pas le comprendre.
Ben, laisse-le. Mais laisse-le tranquille. Lâche-lui les baskets. Hein. Parce que si tu veux qu'il comprenne que tu l'aimes, c'est le
pas
serré.
Non, je veux pas qu'il comprenne que
tu l'aimes. Ah bon, donc très bien, tu l'aimes. Bon.
Bon. Non, je veux rien lui faire comprendre, je veux rien lui dire.
Donc tu l'aimes.
Oui, je l'aime.
Tu vois que vraiment il y a quelque chose d'une de très grand en lui qui t'attire vraiment. Tu te découvres le soir, t'en pince pour lui. Bon. Et non mais c'est ça, que tu en pince, que tu es. Que tu aies ton sens de gravité, c'est lui.
Voilà.
Il est à l'extérieur de toi.
Ouais,
ok hein? Et c'est pas toi ce que tu ressens, mais c'est vraiment lui qui t'attire. Tu comprends rien, tu sais pas pourquoi, tu pressens qu'il y a quelque chose d'un mystère de bien, enfin de bonté pure, d'éternité quelque part, occasion d'éternité si tu veux. Et voilà, bon, très bien. Et c'est tout. Eh bien, il faut que tu laisses ce don de l'amour, puisque l'amour, tu ne l'as pas inventé, il ne jaillit pas de toi. Quelque part, il ne jaillit pas de lui non plus, du point de vue de sa liberté, puisque il ne sait pas que tu l'aimes. Bon, c'est un don pur. L'amour s'impose à nous. Et donc, laisse ce don d'amour s'imposer à toi, s'enraciner en toi. Mais laisse-toi attirer par l'amour.
Donc, il y a des personnes qui ne pourront pas aller, qui vivront ça seules.
Comment faire la réciprocité? Ah, lui, il fait des études de philosophie, tu vois, ça aide, hein, formuler les choses, hein. Des études de philosophie, hein, c'est fils, ça marche. Ah, mais, alors, comment faire la réciprocité? Alors, dès que tu te poses la question comment, c'est une question d'artiste. Comment je vais faire pour qu'il y ait la réciprocité? Mais ça, c'est terrible, l'artiste en toi.
Non, mais attention, comment je vais faire? D'accord?
Pardon?
Comment
c'est dit
comment?
Alors, dans quelles circonstances? Oui, dans quelles circonstances l'amour qui s'impose à moi va-t-il se féconder en amour et éventuellement en amour de réciprocité. Bon, eh bien, il va s'imposer en amour de fréquentité si je suis attentif à cet amour, si je le respecte comme amour et si je laisse cet amour me prendre jusque dans les parties donc spirituelles, du point de vue donc de la lumière qui active mon diaphane intérieur, ce qu'on appelle l'âme, et puis du point de vue donc de toutes les puissances affectives. Je me laisse vraiment attirer par l'autre et j'ouvre notamment toute ma dimension incarnée et spirituelle pour contempler l'autre et vivre de cet amour. Je ne refuse pas cet amour, je le prends et je laisse faire son œuvre. Parce que l'amour, c'est de la vie et il s'intensifie si je n'y mets pas d'obstacle. Parce que l'amour fait peur. Pourquoi? Parce que l'autre, je ne le connais pas. Et il peut me dévorer. Il peut me détruire quelque part. Heureusement qu'il va me détruire, d'ailleurs. Puisque, au fond, je commence enfin à vivre. Lorsque je meurs d'amour. Donc, je vais laisser l'amour faire son travail, son œuvre, et laisser sa croissance s'opérer. Il y a une croissance dans l'ordre de l'amour. Et c'est évident que le premier moment, c'est ça, c'est de laisser avec gratitude ce don de l'amour s'enraciner en moi et me prendre tout entier. Me prendre tout entier, me laisser entièrement attiré par l'autre. Mais dans un deuxième temps, et en même temps, je deviens, à ce moment-là, je fais l'expérience de l'amour. Et dans cette expérience de l'amour, j'évacue toutes mes idées sur l'amour. Finalement, je n'ai pas vraiment vécu, quelque part. C'est l'autre que je vois. Peut-être pour la première fois de ma vie, je regarde quelqu'un d'autre que moi, je suis entièrement oublié. Et je prends conscience de ça, la prise de conscience.
Systématiquement, j'ai ma réponse, hein, ça va. Systématiquement, s'il y a cette acceptation totale de cet ami, ouais, même si l'autre n'est pas prêt, n'est pas conscient de ce qu'il a envie, eh bien, il est obligé d'y venir par rapport à cet état, à l'état de l'autre.
Pas obligé. Pas obligé parce que l'amour est libre. Et donc lui, il peut. Non, c'est pas nécessaire. L'amour n'est pas nécessitant. L'artiste, oui, tu as une inspiration, mais Manaz, il a une inspiration. Il faut que ça se traduise dans un parfum. Il le faut. C'est nécessaire. Quelqu'un qui est vraiment artiste, si tu connais des artistes, et ce qu'il a, ce qu'il vit, il faut que ça se traduise dans la matière. Il faut que ça sorte. Il le faut. Ce caractère, tu vois, ça c'est quelque chose, cette préoccupation, que ce que je vis dans ma philosophie pratique, dans mon expérience pratique, et son prolongement, son extériorisation, etc., ça c'est une préoccupation d'artiste. C'est important, hein, de faire le discernement en toi entre l'artiste et l'amour, lui, il te désarme. Il te désarme. L'amour te rend impuissant. Tu es désarmé. Il te rend vulnérable. L'amour te rend... Oui, alors je te Alors, mais oui, mais justement, alors tu laisses cet amour faire. Et tu comprends que cet amour est aussi... que l'autre est au-dessus de toi et que l'amour est au-dessus de tout. Et tu laisses cet amour faire son... se répandre dans cette relation qui t'est donnée dans l'amour. Maintenant, si l'amour fait son travail de purification dans l'autre, c'est ce que tu dis, c'est un travail de purification qui ne t'appartient pas. Toi, tu dois simplement accepter l'amour et toujours rechoisir l'amour et choisir l'autre. Simplement, tu ne veux pas nécessairement une concrétisation immédiate. Ce n'est pas capricieux du tout, l'amour. Et donc, il y a quelque chose qui fait que tu vas dire, ben voilà, tu prends conscience, tu acceptes, tu laisses l'autre t'attirer encore plus, en étant de plus en plus ouverte à l'autre. Et du coup, à un moment donné, tu découvres que vraiment, c'est ça ton bien. Et c'est ça qui t'attire. C'est lui qui t'attire. C'est pas lui parce qu'il est chouette, parce qu'il est sympa ou parce qu'il souffre et du coup ça fait naître en toi le sentiment maternel, etc. La petite infirmière qui est dans toi et tout ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'artiste. Hein. Cette infirmière, là, j'ai du travail avec ce mec, je vais pouvoir. Le... Hein, c'est ça, il y a beaucoup hein, qui sont comme ça. Ce que disaient les prédicateurs dans les années 40-50, ils disaient toujours ça. Les femmes sont des infirmières nées. Du coup, c'est une catastrophe. Comme ça qu'elle commente, qui commente le PC d'Adoriev, c'est bon. Bon, enfin, bon, peu importe. Alors donc, ça va un peu de... Tu laisses faire, tu vois. Et je crois que ça, c'est quelque chose. À partir de ce moment, tu vois que c'est ça ton bien, c'est d'aimer. C'est de laisser cet amour prendre toute ta vie. À ce moment-là, ça y est, ton esprit s'ouvre, tu deviens contemplative. Tu es capable de lire intelligence. Intus, legere intus, de lire à l'intérieur du mystère de l'autre ce qui est à la source de sa grandeur, de sa bonté, de son mystère d'amour. Là où il est source d'amour, ou il ignore peut-être lui-même, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance pour toi. Mais ce qui compte, alors du coup, tu vois que ça, à un moment donné, tu sens que tu comprends que cet amour te finalise ta personne. Tu n'arrives pas à tes préoccupations de travail, tu n'arrives pas à tes manques affectifs, parce que justement, ton manque affectif est encore plus grand, ta soif est encore plus grande. Tu n'arrives pas du tout, mais tu n'arrives pas à personne. Alors du coup, tu es capable de transformer l'autre qui t'attire, donc c'est ton bien, en fin. Quand le bien est transformé en fin, ça y est, pour la première fois, c'est ta personne qui rentre librement et affectivement dans l'amour, quand tu dis c'est ma finalité. Et donc, c'est mon intention, j'ai une intention réelle de faire que ma vie soit finalisée par quelqu'un d'autre que moi, et ma vie est tout entière. Alors la vie implique tout cheminement jusqu'à la mort, par lui. Alors si tu es capable d'expérimenter ça, tu es à peu près sûr d'avoir expérimenté l'amour. À condition que ce ne soit pas aussi non plus une illusion, un rêve, une projection.
Est-ce qu'on peut dire que finalement l'amour, c'est quelque chose qui est spontané, donc qui ne se calcule pas? C'est-à-dire que bon. L'amour ne se calcule
pas. Non, qui est quelque chose de spontané, mais qui ne se
calcule pas.
Qui ne se calcule pas, ça s'impose à toi, oui, tout à fait.
C'est-à-dire que bon, par exemple, bon.
Oui, non, mais d'accord, c'est clair, c'est clair.
Par exemple, on aime quelqu'un, on ressent des sentiments. Bon, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a un répondant, une réciprocité, bon, bah, à ce moment-là, en dehors, disons, du principe d'être chrétien, il faut aimer tout le monde, bon, même ceux qui ne nous aiment pas, mais je veux dire, dans le cadre du précis que l'on fait actuellement, si, par exemple, on fait une avancée vers d'autres, bon, si on s'aperçoit, par exemple, au bout de quelques temps, qu'il n'y a pas de répondant, bon, ben, il vaut mieux aller voir ailleurs.
Non, l'amour se suffit à lui-même. C'est comme ça que tu vois, l'amour se suffit à lui-même. Que l'autre ne réponde pas, ça te frustre. C'est frustrant, si tu veux, du point de vue des autres dimensions de l'homme, parce que du coup, tu ne peux pas fonder une famille, du coup, tu ne peux pas, ça c'est de la coopération pour faire une œuvre. Bon. Tu ne peux pas réaliser ton génie, et tu ne peux pas, j'allais dire, l'autre ne se livre pas lui-même dans sa vie, donc tu ne peux pas lui apporter le bien que tu pourrais lui apporter. Donc l'artiste en toi non plus ne peut pas agir dans la relation. Toutes les autres, ta dimension d'intériorité, donc cette espèce de fait de te retrouver toi-même, de te connaître toi-même dans l'unité de ce qui a besoin, pareil aussi, très frustré. Parce que justement, l'amour te met tout à fait dans l'autre et l'autre te refuse. Bon, bref, les autres dimensions de ton humanité sont frustrées. Mais l'amour, néanmoins, quant à lui-même, si tu veux, il se suffit pour lui-même. Il se suffit pour lui-même. Donc, je l'aime. Je l'aime. L'amour, c'est de donner ma vie à l'autre. Bon, il est ma finalité. D'accord ? Le bien, il est mon bien. Il m'attire, je l'aime. Bon, je choisis comme ma fin. Ah là, c'est libre, c'est contemplatif, et c'est de l'amour qui devient humain. C'est ma personne qui s'engage et qui va vivre l'amour. Là, l'amour s'impose à moi, il m'est proposé. D'accord ? Je ne le calcule pas, comme tu dis. Mais là, quand je le choisis pour ma fin, c'est ma finalité, je le choisis, je fais une intention de vie, c'est mon intention de vie, de vivre de l'amour, dans cette relation. Et par conséquent, là, il n'y a pas de condition. Je ne dis pas, il me faut la réciprocité avant 15 jours. Si c'est dans 22 ans, ça me suffit tout à fait. Je le choisis pour ma fin. C'est la fin de toute ma vie. Si je mets une clause dispositive conditionnelle, c'est que ce n'est pas une intention de vie. Et donc, je n'ai jamais engagé ma personne dans une intention de vie, d'amour. Et ça, bon, évidemment, je peux très bien dire, tu me diras, c'est pas commode. Mais tu vois, par exemple, tu me diras, 95% des gens, ils ne font finalement jamais aucune expérience humaine d'amour, parce qu'ils disent, bon, d'accord, puis ça marche pas, on divorcera dans 10 ans, puis voilà. Je veux bien en baver, crucifier, écorcher vivre pendant 12 ans, mais pas plus. Donc si au bout de 12 ans, je suis bien écorché vif, bien détruit, je divorcerai. Hein? Bon, mais qui ne pense pas comme ça? Beaucoup, n'est-ce pas, pensent comme ça. Bon, ici, personne, bien entendu. Mais quelques-uns, en dehors de cet hémicycle, pensent comme ça. Bon, eh bien, tu comprends? Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, simplement, tu me diras, à ce moment-là, c'est donc impossible. Eh bien, je te dis, non, c'est pas impossible, et c'est même très courant, qu'on fasse des expériences d'amour. Pourquoi ? Qui, par exemple ? Eh bien, avec, disons, avec ton père, avec ta mère, tu peux aimer ta mère facilement et avoir l'intention que l'autre personne qui est ton père, si tu veux, bah, soit toujours pour toi un mystère qui source par rapport à toi. Ton frère, moi, pour moi, ça ne me pose aucun problème pour moi. Bah, c'est facile parce que j'ai un frère jumeau, donc je vais dire. Donc, que j'ai une expérience d'amour, mon frère finalise toute ma vie, mais ça, je peux le dire sans problème. Mon frère jumeau finalise toute ma vie. Et bon, ça s'est imposé à moi, ça c'est vrai. Mais n'empêche qu'à un moment donné, je le comprends et je le choisis. Il finalise toute ma vie. C'est vrai que ses frères et sœurs, on peut choisir de les aimer d'un amour d'amitié jusqu'à la mort et pour le meilleur et pour le pire.
Je pense que même si vous, si Bruno vous trahissait, par exemple, vous l'aimeriez plus.
Encore plus.
Mais non, mais c'est la différence entre l'amour spirituel,
ouais,
humain.
Et c'est l'amour humain qui est comme ça. Alors, c'est tout à fait. Et on s'entraîne justement avec ceux qui sont ceux que Dieu a mis proche de nous, donc nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, vous voyez bien. Et si on est croyant, Dieu, parce que Dieu est beaucoup plus proche de moi que mon père, ma mère ou mon frère jumeau. Donc si je ne suis pas capable, je trouve que c'est très difficile d'aimer Dieu, c'est un petit peu emmerdant. Qu'est-ce que ça va pas être commode quand ce sera la mégère ? Toi ? Bon, alors, c'est sûr ça, c'est l'évidence même. Donc vous voyez bien que la première chose que j'aurais voulu bon, qu'on pige, hein, c'est ça, cette différence radicale qu'il y a entre l'expérience de l'artiste et l'expérience de celui qui aime. Ça, c'est fondamental. Vous comprenez que si... Ah, moi je l'aime, c'est ça qui compte pour moi, je le sens très fort, etc., 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 etc. C'est fou ce que je l'aime. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, je peux vous signer le papier, le divorce, dans les 5 ans. Je signe, je m'engage, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez. 100% de chance, il n'y a pas une chance qu'il n'y ait pas de divorce, c'est impossible. C'est ça. Eh oui, parce que tu comprends. Alors, et puis je veux, il faut que je le sauverai. Comprends? Il est comme ça, et bon, il comprend même pas qui il est, ce con, et tout, qu'il est si bien que ça, et tout ça, il se respecte pas lui-même, il s'autodétruit, ce crétin, ça, moi je vais le sauver. L'artiste, tu vois, hop, je vais le re-sauver, c'est une matière transformée. Moi, je vais lui faire du bien. Toute ma vie, je vais lui faire du bien. C'est l'artiste, ça. Il confond le bien et le beau. C'est beau ce que je ressens pour lui, je veux le faire passer et ça va le guérir. C'est l'inspiration qui est un instrument, c'est mon pinceau. Mon inspiration, ce que je sens. Ça ne va pas du tout de confondre le beau et le bien. Ça n'a rien à voir. Le beau humain, c'est magnifique. Personne ne dit que le beau humain, c'est pas magnifique. C'est grand, le beau humain. Mais c'est pas le bien. L'art, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est quand même très, très, très important. Et si c'est comme ça que je vis ça, eh bien, du coup, le problème va être que, du coup, je vais vouloir avoir ma marque sur lui. Donc, j'aurai une relation d'éducateur, quelque part. Je veux qu'à partir de ce qu'il a comme forme, il est en pleine forme, il est en moyenne forme, il est en forme médiocre, c'est ça, je veux lui donner une forme meilleure. Je veux qu'il soit plus beau, je veux qu'il soit meilleur, je veux qu'il soit plus grand. Si je fais ça, je fais exactement comme l'artiste qui prend un bloc de marbre, qui prend sa sculpture, et que le bloc de marbre ait une forme plus belle. Une colombe en marbre de Carrare, c'est beau. C'est mieux que cette espèce de masse. Et j'ai bien mis une... C'est moi qui est imprimé sur cette matière transformable, une forme qui vient de moi. Alors l'autre se transforme en matière transformable. C'est charmant pour l'autre. Donc si je n'engendre pas la réciprocité, c'est que mon amour est un amour artistique. Parce que l'amour est toujours fécond. Non, d'orgueil, ce serait ennuyeux s'il y avait de l'orgueil.
Enfin, l'exemple de l'orgueil, bon, je veux dire, bon, par là, bon, c'est-à-dire que ce qui peut par exemple détruire, c'est par exemple de vouloir absolument avoir raison envers et contre tout. Bon, par exemple, on est tous plus ou moins orgueilleux. C'est-à-dire que par exemple, dans un discours, dans une discussion, bon, ben, soit par un mot d'esprit ou par une pirouette quelconque, on parle toujours retomber sur ses pieds et quelquefois avoir le dernier mot, même si on sait quelquefois qu'on est tort. Mais c'est-à-dire que si par exemple, il y a une certaine humilité où on se dit, on s'est trompé.
Non, tu as raison de parler d'orgueil, hein, tout simplement parce que l'amour fait que c'est le centre de gravité, c'est plus le moi, ni mon être, ni ma substance. C'est le mystère de l'autre. Donc moi, je deviens petit et lui devient grand, si tu veux. C'est pour ça que le centre de gravité, c'est lui. Hein? Donc c'est sûr que l'amour, c'est un petit peu comme une espèce d'anti-expérience par rapport à l'orgueil. Hein? C'est vrai. Et donc, quelque part, un amour qui ne me rend pas humble, c'est sûrement pas un amour. L'humilité, c'est un signe de l'amour. Quelqu'un qui est humble, c'est sûr que c'est il aime quelqu'un.
C'est pas aussi le cas où justement il y a une personne qui peut être attirée justement par cette humilité, qui peut se servir de l'humilité de l'autre justement parce qu'il a envie d'être transformé.
Mais bien sûr, toi tu peux aimer vraiment quelqu'un et l'autre, lui, il peut, donc tu peux avoir une relation d'adhérer avec lui et l'autre du coup trouve ça très intéressant et va avoir une relation de s'attirer.
Ouais.
Mais c'est là qu'il faut être attentif justement, hein. Bon, c'est pas un piège. Ça se reconnaît un petit peu tout de suite. Justement, c'est ça qu'on va parler cette année, voyez bien. Vous comprenez que pratiquement tous les pièges naviguent ici, sur cette espèce de dialectique, si vous voulez, qu'il y a entre l'artiste et puis l'amour. Or, les deux fonctionnent à partir d'une unique puissance dans l'homme qu'on appelle la volonté. Alors, la volonté est la source de l'art, quelque part, de l'impérium de l'artiste. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond. C'est pour ça que ça ressemble tellement à... On peut confondre. Et puis, le cœur profond, c'est également dans la volonté qu'il a son siège. Okay? Donc, vous comprenez bien que là, ici, il y a quelque chose à bien regarder. Mais une fois que vous avez pigé les deux arêtes, je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à regarder les profondeurs, les degrés dans l'ordre de l'amour, les qualités de l'amour, et puis de saisir les nostalgies dans l'ordre de l'amour. Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu vous faire les nostalgies dans l'ordre de l'amour. Bon, mais je crois que c'est en plus. On les fera une autre fois, c'est pas grave. Mais ce que je voulais faire, c'était ça. Mais comme il est déjà 4h30 et que je voudrais quand même passer une bonne heure à faire le deuxième volet de notre petite recherche, si vous voulez, bon, où on va un petit peu passer à autre chose, on va regarder, puisque c'est la personne qui aime, on va essayer de. Et que c'est la personne dans l'autre qui t'attire. C'était de regarder quand même cette grande unité de la personne. Et qu'est-ce qui, dans l'autre, t'attire la personne? C'est quoi? Essayer de voir, à la lumière de l'amour, l'histoire de la personne. Je crois que ce serait bien. Et puis après, peut-être les autres fois, alors à ce moment-là, regarder cette espèce de grande montée de l'amour, que l'amour est une vie, qu'elle s'intensifie, qu'elle s'approfondit. Elle a ses degrés. Elle a ses degrés. Et puis, on regarderait petit à petit, en avançant, les 33 degrés de profondeur dans l'ordre de l'amour. Ça, je crois que ça, il faut qu'on le voit clairement, ça. Une fois qu'on a enlevé 33 degrés, à ce moment-là, on pourra rentrer dans le vif du sujet, puisque notre sujet, cette année, c'est la charité, l'agapé. Et une fois rentré dans l'agapé, à ce moment-là, on essaiera de comprendre comment, cette fois-ci, comment. Ça, c'est l'œuvre, ergon tout est où, l'œuvre du Christ, comment la charité, on peut laisser le Christ faire son facere d'amour en nous. Et si on appelle ça l'esprit d'obéissance, comment l'esprit d'obéissance en moi me transforme et permet l'union transformante et faire que je sois entièrement, physiquement brûlé par l'amour. Là, il va y avoir aussi toute une montée dans l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance, c'est quelque chose. C'est ça qui fait que l'amour devient éternel et à la fois temporel, incarné. Sans l'esprit d'obéissance, c'est impossible. Alors, seulement, il faut saisir ce que c'est que l'obéissance. Il y a plein de trucs qu'on croit, ou dont on croit que c'est l'obéissance, c'est pas du tout l'obéissance. Donc, il faut bien saisir où est l'obéissance. L'esprit d'obéissance. Je crois que c'est ça notre thème de l'année, mais je sais pas. Vaguement tracé, si vous voulez, hein. Je navigue comme vous au radar, hein. Mais je vous propose ça. Donc on va souffler un peu.